Et après, je fais ça.
Soyez les bienvenus dans Grand Mère vous fasse. Au début de la pandémie, des milliers de personnes, centaines de milliers de personnes, familles, amis, collègues du défunt, n'ont pas pu vivre pleinement leur deuil. Ne pas pouvoir accompagner un proche jusqu'à sa dernière demeure, ne pas pouvoir se réunir à plus de 20 personnes lors des cérémonies funéraires, avec l'impossibilité de se serrer dans les bras pour dire sa peine lors de ses obsèques en petit comité. Cette expérience a durablement marqué ceux qui l'ont vécu et a compliqué le processus de deuil. Un an après ce traumatisme, nous avons décidé d'explorer ce voyage dans le deuil, alors que la mort nous accompagne tous les jours avec la crise sanitaire. Comment se passe un processus de deuil? Comment est vécue cette douleur éprouvée à la mort d'un proche, qu'elle soit prévisible ou brutale? Quelles sont les répercussions physiques, psychologiques, sociales, spirituelles d'une telle perte? Comment apprendre à vivre sans la personne disparue? Élément de réponse ce matin, racontez-nous comment vous avez vécu un deuil au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Vous retrouverez évidemment les questions pertinentes de Marie-Laure Zunshine, de Femme Actuelle. Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Quel est le menu de vos choses vues ce matin?
C'est un programme pour nous aider à regarder autant que possible la mort en face avec Épicure, Christian Bobin et quelques tarés d'Oli.
Bienvenue dans Grand Mère vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rémy, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Christophe Auré.
Un autre Christophe. Bonjour Ali, Christophe Auré, celui-là.
Bonjour Christophe Auré, vous êtes psychiatre, psychothérapeute, spécialiste des ruptures de vie. Votre livre « Vivre le deuil au jour le jour » publié chez Albin Michel est devenu une référence. Il a été réédité l'an dernier. Et vous avez contribué au site mieuxtraverserledeuil.fr. Quel est l'objet de cette plateforme?
C'est une plateforme qui a pour propos le deuil, accompagne les personnes en deuil et qui propose une foule de services. Tout cela est gratuit, avec notamment pendant le confinement, le premier confinement en mars, nous avons créé une cellule d'écoute pour personnes en deuil, justement, parce qu'il y avait un isolement social important. Et donc on a pu fédérer, c'est la première fois en France, plus de 800 associations d'accompagnement du deuil et de la fin de vie qui nous ont prêté des bénévoles d'écoute. On a créé cette ligne qui a tellement bien marché, ligne d'écoute aussi par chat, qu'elle continue encore toujours à exister. Et cette même plateforme, il y a un an, a créé un service qui est toujours opérant maintenant, de suivre les obsèques en ligne. C'est-à-dire qu'on n'avait pas la possibilité de pouvoir être présent pour les obsèques, et on s'est rendu compte qu'il fallait créer, on peut créer sur la page du site, la page de la personne, il y a un lien sur laquelle les proches cliquent et c'est relié à un smartphone du proche qui peut, pendant la cérémonie, permettre à ceux qui se retrouvent à des centaines, des milliers de kilomètres de là, d'assister à la cérémonie, et c'est toujours opérant. Donc on se rend compte là comment Internet, un outil vraiment 2.0 de notre monde, peut venir accompagner un processus qui est complètement ancestral. Et donc, et tous les mois aussi, avec Mieux Traverser le Deuil, nous organisons un Facebook où je réponds aux questions des personnes, que les personnes posent sur le site.
Qu'est-ce qui vous a frappé depuis un an, depuis le début de la pandémie?
C'est véritablement commencer que le processus de deuil, c'est un processus d'ultime solitude à l'intérieur de soi, psychologique, mais c'est aussi un processus social. On a énormément besoin d'être en lien pour accompagner sa peine. Et le grand manque, c'est la difficulté d'être en lien, vraiment de se toucher, de se serrer dans les bras. Et ça, c'était vraiment la chose la plus difficile, en créant une espèce de caisse de résonance à la peine qui est déjà présente et qui trouve un petit peu plus d'ampleur, malheureusement, dans ce contexte.
Bonjour, Aline Mazorel.
Bonjour.
Vous êtes chroniqueuse dans l'émission Quotidien sur TMC, Au Monde et dans Grand Fâche le Vendredi. Et vous êtes l'auteur d'un podcast non pas consacré à la sexualité ou à l'amour, mais à un deuil qui vous a frappé il y a 7 ans, le 23 juin 2014. Un podcast qui s'appelle Traverse, 7 épisodes produits par France Inter et disponible dès aujourd'hui. Je propose d'écouter un extrait.
À l'heure où j'enregistre ces mots, j'ai 42 ans. J'entame un nouveau cycle de 7. Plus aucune cellule de mon corps n'a connu sereine, le dernier lien physique se dissout. J'aimerais penser que ça me donne de nouvelles permissions, de nouvelles émancipations. Mais ça fait longtemps que mon deuil ne me contraint plus à rien. Je vous l'ai dit, c'est pas une histoire triste. Revenir pardon à Soren, 29 ans, qui avait à peine entamé son cinquième cycle et qui n'a jamais eu 30 ans. Ça l'angoissait à la trentaine. À 29 ans, il venait d'entrer dans cette phase de vie où peut-être on serait marié et on aurait fait des enfants. En tout cas, c'était le plan. Mais quand quelqu'un de jeune, en bonne santé, meurt d'un arrêt cardiaque, les plans ne riment plus à rien. Encore moins les histoires de plans divins. Et ça, en fait, c'est embêtant. J'aurais eu besoin de pouvoir me raconter cette histoire-là. Parce que si la mort d'un proche correspond à un plan, alors on peut se raccrocher à un certain idéal de justice, on peut se convaincre que nous méritons ce qui nous arrive. J'aurais adoré trouver un coupable, une maladie, un chauffard, une chute de météorite, n'importe quoi d'au moins vaguement fatal. Mais Soren est mort sans raison, par surprise, dans un champ de lavande le 23 juin 2014. Sa mort n'avait tout simplement aucun sens.
Extrait de Traverse, votre podcast My Mother Red. Comment est née l'idée de raconter ce processus de deuil?
À la fois tout de suite et très tard, c'est-à-dire que je le raconte dans le podcast. Dès que j'ai commencé à dire autour de moi que mon fiancé était mort, mon premier éditeur m'a dit surtout n'oublie pas de prendre des notes. Et j'ai pas pu le faire tout de suite, mais je l'ai fait assez rapidement. Et avec le temps, je me suis dit que ce serait pas possible d'en parler jamais parce que j'avais peur de manquer de respect à la famille de mon fiancé. Et je me suis aperçue en les revoyant il y a 2-3 ans que eux avaient été blessés par mon silence et qu'au contraire, en tant qu'artiste, en tant qu'autrice, ils avaient l'impression que si j'en faisais quelque chose qui pouvait aider d'autres personnes, alors quelque part ça pouvait enfin donner du sens à cette histoire qui en a toujours pas beaucoup d'ailleurs. Et c'est eux qui m'ont donné la permission et je leur ai encore envoyé un petit email hier pour leur dire que le podcast sort aujourd'hui. Et c'est merveilleux d'être autant soutenu par comme ça des personnes qui habitent loin au Danemark, qui ne pourront même pas écouter le produit et qui m'ont donné leur absolue bénédiction pour en parler. Donc ça a pris 7 ans et je crois que c'est ce dont j'avais absolument besoin pour à la fois garder l'émotion parce que je pense que l'émotion ne partira pas et en même temps être très apaisé par rapport à ce qui s'est passé depuis.
Christophe, c'est exactement ça, une compréhension vraiment du processus de deuil comme quelque chose d'absolument horrible. Non, c'est la mort de la personne qui est horrible. Le processus de deuil, lui, c'est quelque chose d'extrêmement intelligent dans notre esprit qui vient justement prendre soin de cette blessure et comme un processus de cicatrisation fait que la plaie restera, la cicatrice restera tout jamais, toujours douloureuse. Donc le processus de deuil, ce n'est pas oublier la peine, elle restera, mais dans un coin, elle trouve sa juste place à l'intérieur de soi, ce qui fait qu'on peut effectivement, avec le temps que ce processus, comme un processus de cicatrisation, il a des étapes, et on peut progressivement trouver un espace de paix, alors qu'on ne pensait jamais pouvoir trouver cet espace de paix, et trouver un espace où on peut vivre autre chose. Comme disait une dame, on passe de la survie à la survie. La survie, on ne peut plus respirer pendant les premiers temps. À la survie, c'est une vie qui se fonde sur l'autre. C'est vraiment ça, et qui permet la créativité après, justement, et le désir de transmettre 7 ans après.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu des histoires de superposition. J'explique dans le podcast que moi, je suis retombée amoureuse très rapidement après. Et c'est quelque chose qui peut être décrit dans votre livre.
Non, non,
par
pas
exemple,
du tout, au contraire. Non, non, non.
Comme un piège. Je raconte aussi que, évidemment, quand on ne peut pas finir une histoire avec un partenaire parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de se quitter, et quand on commence une autre avec quelqu'un, dans ce cas-là, effectivement, la vie sentimentale se passe par strat. Et j'ai vraiment l'impression, dans mon cas, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire avec une accumulation de choses plutôt qu'avec une perte. Parce que les gens ne disparaissent pas tout de suite quand ils meurent. Ils vont rester là sous différentes formes, mais aussi dans les rêves, dans les conversations qu'on a dans la tête, dans les objets qui sont encore là, dans la famille, dans les actes qu'il faut faire, dans certains rituels, puis dans le fait aussi de passer à travers les rituels. Donc on a l'impression que la mort, c'est juste un passage qui va avoir lieu très vite et ensuite à nous de gérer les conséquences. Mais dans mon expérience, la mort, elle est très très longue et elle ne s'arrête pas.
La mort de Soren n'avait aucun sens, hein, mort à 29 ans dans un champ de lavande.
En fait, c'est quasiment la solution où il y a plus de sens. C'est-à-dire ouais. qu'il est mort parce que d'un seul coup, son cœur a arrêté de battre. Et quelque part, c'est un peu mort d'avoir été en vie, c'est ce qui nous attend tous. J'ai lu un chiffre absolument hallucinant récemment, c'est que entre 82 et 108 milliards d'êtres humains ont vécu jusqu'à aujourd'hui. Autant de personnes qui y sont mortes pour un sujet dont on refuse toujours de parler, alors que c'est énorme, quoi.
Vous avez trouvé un sens à l'issue de cette création, de ce podcast? Qu'est-ce que vous avez trouvé au bout du chemin?
Ah, la question très compliquée. Moi, je suis pas forcément quelqu'un de très spirituel, je vais pas partir forcément sur des questions de grande transcendance. J'ai découvert que j'avais une capacité de résilience assez solide, ça c'est toujours pas mal. Et aussi que à travers la mort, il y a une dynamique qui se crée et qui ne s'arrête pas. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant de voir à quel point ça me nourrit encore aujourd'hui et à quel point j'en ai tiré de la force qui va m'accompagner tout le temps. Donc je me sens plus forte aujourd'hui, je me sens plus puissante.
Oui, il peut résulter de ce chemin de deuil la conscience de la capacité à aider les personnes qui vivent la même chose. Que j'accompagne beaucoup de parents en deuil de leur enfant, et souvent ils ne trouvent la juste parole justement auprès de parents qui ont eux-mêmes perdu leur enfant. D'ailleurs, toutes les associations d'accompagnement de parents en deuil sont vraiment encadrées par des parents qui ont compris la même chose. Donc cette expérience de la perte du deuil va tellement dans l'intime de soi qu'on sait, même si on n'est ni psy ni rien, on sait qu'on peut trouver la parole juste pour quelqu'un qui a perdu son compagnon, sa compagne, son enfant, son parent, parce qu'il y a quelque chose qui va au-delà de ce que n'importe quel psy pourrait énoncer.
J'aimerais revenir sur le deuil comme processus de cicatrisation. Pour bien comprendre les choses, vous utilisez, Christophe Forêt, la métaphore suivante. Je suis en train de préparer le dîner, mais un récipient rempli d'huile se déverse sur ma main. Je ressens une grave brûlure. Et là, deux possibilités s'offrent à moi. Je peux décider d'étouffer la douleur en prenant des antalgiques et en enveloppant ma main d'un gros pansement, ce qui est bien. Et puis face à cette douleur soudaine, je peux décider d'accompagner activement le processus de cicatrisation.
Oui, exactement. Autant on n'a pas de contrôle sur le fait qu'il y a la brutale blessure de la perte de la personne qu'on aime.
Et on restera blessé à jamais, ça il faut bien comprendre.
Comme quand on a une grande blessure, la cicatrice, on la verra à tout jamais, et elle sera réactivable à Noël, le jour de l'an, à la Saint-Valentin. Donc c'est vraiment sortir de l'idée que ça va disparaître. Non, on sera transformé à tout jamais. Mais le travail de deuil, ce qu'on appelle le travail de deuil, c'est comment du mieux possible je prends soin de cette plaie pour qu'elle se cicatrise de la façon la plus harmonieuse possible. Et autant le processus de cicatrisation n'est pas un processus conscient qu'on décide, il se passe heureusement, alors que le processus de deuil, c'est vraiment une décision, c'est un choix qu'on fait de prendre soin de soi jour après jour, mois après mois, année après année.
Ce sont aussi des choix qu'on nous laisse faire. Et là, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'avec la bureaucratie, la paperasse, il y a beaucoup de choses qu'on nous empêche de faire. Il y a aussi la protection des autres, la protection des proches, qui, pour notre bien, vont essayer de cadrer les choses, de nous donner, je ne sais pas, par exemple, des chronologies. Alors, dans 2 mois, il se passera ça, dans 1 an, il se passera ça. Et tout ça peut être terriblement incapacitant. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de raconter mon histoire, c'est aussi parce que j'ai eu la chance absolue de pouvoir vivre un deuil qui passe à travers les règles et les codes. J'ai fait des choses qui normalement sont interdites et qui correspondent, à mon avis, à une expérience humaine plutôt ancestrale, qui est d'être très très proche de ses morts. Et finalement, en fait, la protection qu'on a aujourd'hui de se dire, bah, très bien, les gens meurent à l'hôpital, je crois que c'est 80% d'entre nous qui meurent à l'hôpital, et ensuite bah, ça disparaît. Il faut imaginer qu'il y a encore quelques générations, la personne mourait à la maison, le corps était exposé sur la table sur laquelle on allait manger, et que l'humanité, c'est ça, et qu'une part de notre humanité nous est enlevée quand on nous enlève nos morts, et j'aimerais bien qu'on nous les rende un peu.
Exactement, parce qu'on parle tout le temps du tabou du deuil, mais à force de mettre à distance l'accompagnement de la fin de vie, on a mis à distance l'accompagnement du deuil, et ce savoir justement des siècles et des siècles passés, on l'a perdu. Et comme quand on ne connaît plus quelque chose, et bien le réflexe c'est d'en avoir peur, et quand on a peur de quelque chose, on le met à distance. Et donc il y a quelque chose d'extrêmement sain dans notre société à se réapproprier, et merci au podcast de Maya, réapproprier une familiarité, une proximité avec la mort. Ça n'est pas morbide, c'est juste le déroulé de la vie, Et en même temps, le corollaire immédiat de la mort, c'est le procès de deuil pour que enfin notre société accompagne avec bienveillance, avec sans peur et sans schéma rigide et stéréotypé sur comment on doit vivre son deuil. Et vraiment accueillir quelqu'un, dire le prénom de l'enfant décédé lors des fêtes de Noël, trinquer au nom de la personne sans qu'il y ait un silence gêné. Des plein de petites choses au quotidien qui font qu'il y a, on apprivoise et on rend très doux la présence de la personne et non pas, même s'il y a le manque qui persistera à tout jamais, il y a quand même posé juste à côté la possibilité de quelque chose de très doux dans l'intégration de nos morts, de nos gens, des gens qu'on a perdus et qui ont contribué à faire qui on est, les personnes qu'on est. C'est pour ça que ça se terminera jamais. Le fait de les avoir perdus, on va être malaxé par leur présence toute notre vie.
Christophe Forêt, évidemment, il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance, mais le processus de deuil est-il différent selon que la mort soit attendue quand un proche est par exemple en soins palliatifs ou alors quand la mort est brutale et inattendue?
Malheureusement, il n'y a pas de hiérarchie parce que les personnes qui ont perdu quelqu'un brutalement se disent « mais j'ai pas pu l'accompagner, j'ai pas dit au revoir, on n'a pas pu clore de certaines façons la relation ». Et d'autres personnes qui ont accompagné disent « oui, mais c'était horrible de voir mon compagnon, ma compagne, mon enfant se dégrader au fil du temps, j'aurais préféré vraiment qu'il soit préservé et que ce soit brutal ». Donc il n'y a pas de hiérarchie et en plus il n'y a pas de hiérarchie dans le lien d'une maman qui perd son petit, c'est un même effondrement. Ou similaire en tout cas avec l'effondrement de perdre son compagnon ou sa compagne. En tout cas, ce qui compte, c'est l'intensité du lien émotionnel avec la personne. C'est ça qui va déterminer le vécu du deuil.
Et on peut bien sûr accompagner quand la personne est morte aussi. Et ça me semble vraiment important de dire que c'est pas forcément les derniers instants, le dernier soupir, qu'il y a des choses à faire avec le corps après. Il y a des vêtements à choisir, il y a des fleurs à choisir, des cercueils et tout. Donc il y a plein de choses à faire. Et c'est aussi quelque chose qui permet de mettre en forme ce qui se passe dans notre tête.
Et il y a des choses aussi, même des années après, on peut mettre la photo de la personne devant soi, mettre une bougie, et même 10 ans, 5 ans après, parler à haute voix à la personne. Je conseille de faire ça aux gens, peut-être juste avant la période de Noël, par exemple, ou avant les périodes d'anniversaire qui sont très douloureuses, c'est de se dire, ok, ce jour-là va être plein de tensions, mais mettez peut-être une semaine ou 10 jours avant et parlez à la personne. Dites-lui là où vous êtes dans votre vie et ça peut réduire vraiment la charge émotionnelle. On peut être accompagné toute sa vie de façon extrêmement douce et paisible par la personne qu'on a perdue.
Christophe Forêt, aimez-vous l'expression « faire son deuil » ?
Je n'aime pas.
Comme si on nous invitait à passer autre chose.
Oui, faire, ça suppose qu'il y a un début, un milieu, une fin. On ne le fait jamais, on est malaxé à tout jamais par la perte de la personne. Par le fait d'avoir aimé cette personne et d'avoir été aimé par cette personne-là, on est transformé à tout jamais jusqu'à la fin de sa vie ou peut-être éventuellement de l'autre côté, on se retrouvera.
Bonjour Laurence.
Bonjour Christophe Forêt, bonjour Ali.
Bienvenue, nous écoutons votre témoignage Laurence.
Merci. Je vais donc essayer d'être synthétique et ne pas laisser transporter mes émotions. Moi c'était il y a 9 ans, donc j'ai vécu une histoire un petit peu difficile après un accident de voiture. Dans lequel je perds mon conjoint brutalement et dans lequel mon fils et moi sommes gravement blessés. Mon fils a 7 ans et nous nous retrouvons pendant un mois à l'hôpital, lui-même en réanimation. Donc là, on va vivre vraiment un tsunami puisqu'il faut annoncer la mort de son papa, il faut survivre, il faut se reconstruire physiquement, psychologiquement. L'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'ensuite, un mois et demi après, ma belle-mère décède d'un AVC, et un mois après, mon beau-père d'une crise cardiaque. Donc là, effectivement, dans le processus de reconstruction, on va rester très très longtemps dans le déni, parce que c'est difficile à croire et à accepter. J'ai perdu mon travail. Donc voilà, là je pense qu'il n'y avait, avait pas d'autres événements qui pouvaient nous arriver. Néanmoins, après ça, excusez-moi,
allez-y, Laurence, allez-y.
En fait, ce qui compte, c'est l'entourage, la famille, mes parents, ma soeur, mes amis. Donc côté. Et puis, le développement de soi, la connaissance de soi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui aide aussi à se reconstruire, à aller de l'avant, et puis ne pas oublier la personne et penser différemment. Donc chaque jour, effectivement, on y pense, puisque maintenant, d'avant après, on pense toujours, mais d'une manière différente. Et puis, c'est vrai, ne pas pouvoir accompagner l'autre lors des obsèques de moi-même sur mon lit d'hôpital et ne pouvant pas bouger, c'est difficile de penser à ce moment où l'autre part définitivement et pas l'accompagner, donc ça rajoute encore une charge à la souffrance. Après, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui vivent ça, c'est que la vie est quand même belle et qu'après, elle nous offre encore plein de possibilités. Donc, il ne faut pas cesser d'espérer, de se battre. Il y a encore plein de belles choses.
Très, très beau témoignage, Laurence. Merci de nous avoir appelé. Christophe aurait envie de vous parler.
Oui, c'est effectivement le message vraiment fort. Les proches, être entouré par les proches et que ces proches ont vraiment un rôle. Et parfois même la personne en deuil a besoin d'enseigner à ses proches, prononcer le prénom de la personne que j'ai perdue, même après 2 ans, 3 ans, 5 ans. N'hésitez pas à rappeler son souvenir, parce qu'il n'y a rien de pire pour moi que de croire que tout le monde a oublié. Les gens parfois ils disent, mais je ne veux pas prononcer son prénom pour pas lui faire penser, pour mettre son couteau dans la plaie. C'est absurde. On pense à chaque seconde à la personne disparue, et ça peut faire du bien au détour d'une phrase, sans pesanteur, au tout temps d'un dîner, d'entendre prononcer le nom de son compagnon, sa compagne, son enfant, de son parent. Donc vraiment, l'entourage, la qualité de l'entourage doit être sur, non pas les premiers mois, mais pendant des années et des années.
Oui, attention quand même, je l'ai dit pour les proches au tout début, qui peuvent avoir une tendance à être dans la surprotection et à nous enfermer dans le rôle de la personne en deuil, alors que nous, on a peut-être envie de vivre autre chose, on a peut-être envie d'aller au cinéma, on a peut-être envie d'aller boire un coup. Et moi, dans mon cas personnel, ça, c'est, j'en avais tellement marre en fait qu'on me dise que j'étais une petite chose fragile, que je suis partie en Mongolie. Et c'était, je sais que c'est un peu extrême comme solution, mais j'en avais absolument besoin parce que ça peut aussi être très pesant de subir la pitié des autres,
oui.
Alors qu'à ce moment-là, ben, on est encore une personne, on a encore plein de choses à vivre, plein de choses à faire, et on n'est pas forcément détruite.
Merci beaucoup à Laurence de nous avoir appelé. Vous pouvez nous contacter au standard de France Inter au 01 45 24 7000. Dans quelques instants, nous verrons quelles sont les grandes étapes du processus de deuil. On parlera notamment du déni qu'a évoqué Laurence. Stéphanie Valois et Théo Delmas ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Céline Collinet. À la technique ce matin, Johanna Gabric et Clément Vuillet. La réalisation est signée Claire Destacan et la programmation musicale Muriel Thérèse. Et je vous propose d'écouter Julien Clerc. 10h32 et ce matin on s'intéresse au processus de deuil avec le psychiatre et psychothérapeute Christophe Fauré et avec Maya Mazoren, l'autrice du podcast Traverse, consacré au deuil de son fiancé Soren, est disponible sur l'application France Inter. N'hésitez pas à témoigner sur la manière dont vous avez vécu un deuil au 01 45 24 7000.
Vous savez, l'histoire que l'on m'a racontée sur vous, l'amant de votre femme, tout ça m'a beaucoup impressionnée et ensuite, chaque fois que je pensais à l'amant de mon père, ma pensée me conduisait vers vous.
Oui, nous avons eu la même expérience, c'est pourquoi nous aimons les morts. Nous ne voulons pas qu'on les oublie, nous n'acceptons pas qu'on les trahisse. Nous sommes pareils.
Non, nous ne sommes pas pareils. C'est vrai, j'aime les morts, je les respecte. Mais j'aime aussi les vivants. Écoutez, quelqu'un meurt, un enfant vient au monde. De nouveaux amis peuvent remplacer ceux qui ont disparu, c'est le mouvement naturel de la vie. Un homme adore sa femme, il a le malheur de la perdre, bien... Je pense qu'il est normal qu'il vive un deuxième amour. C'est naturel.
Alors cet extrait de La Chambre Verte de François Truffaut nous montre que nous ne vivons pas les deuils de la même façon. Chaque deuil est singulier, Christophe Fauré.
Le vécu émotionnel de chaque deuil est différent, mais le processus sous-jacent, inconscient, lui, il est le même. Hein, pour revenir à l'image de la blessure, chaque corps sait exactement comment toutes les étapes pour cicatriser une plaie, mais après on va le vivre émotionnellement différemment parce que cette plaie, ça s'est fait dans un contexte particulier, émotionnellement, dans une circonstance particulière, mais le processus de fond, lui, il est identique. C'est le vécu émotionnel qui est unique au monde.
Christophe Fauré, la première phase d'un deuil, c'est le choc, la sidération. Et dans cette phase, on retrouve l'incrédulité, l'anesthésie des émotions.
C'est en fait un mécanisme de protection de notre organisme. C'est tellement énorme ce qui se passe, même si la mort est attendue, c'est tellement énorme, tellement hors cadre que notre esprit va créer des mécanismes de protection qui ont pour fonction de mettre un peu à distance la pleine et totale réalité de l'absence dans une espèce d'anesthésie émotionnelle. On sait dans sa tête consciemment que la personne est décédée, mais parfois on a un ressenti presque de distance. Et ce qui est étonnant, c'est qu'au bout du temps, mais plusieurs mois après, 6 à 8 mois après, grosso modo, hein, il y a vraiment une usure de ce mécanisme de protection qui fait que c'est seulement à distance, presque une demi-année après le décès, qu'on ressent en profondeur l'intensité de cette perte. Au début, en fait, on est protégé. Et ce n'est pas un déni conscient, c'est quelque chose qui est de l'ordre c'est salutaire pour notre...
Et pendant cette période de sidération, nos émotions peuvent se décharger n'importe où, n'importe quand, dans la rue, dans le bus, au volant de sa voiture, dans la file d'attente, dans la poste.
Exactement, c'est alors, à travers les mailles de cette protection vraiment qui est une espèce de cocon, on a l'impression parfois d'être dans un mauvais rêve, un petit peu oui, dans du cocon, il y a des percées de fulgurance de conscience, ce que les Anglais appellent des grief attacks, des attaques de deuil. Au supermarché, on est cogné par un caddie derrière et on fond en larmes parce qu'il y a vraiment des brèches où on prend véritablement conscience de ça. Si on ne sait pas que ça peut arriver, ça peut être extrêmement flippant parce qu'on se dit mais je suis en train de perdre la tête, mais si on sait que c'est normal, quelque chose de plus rassurant qui se met dans l'esprit.
Mais Mazoret, vous l'expliquez au début de votre podcast, vous n'avez pas vécu de déni.
Non, pas du tout.
Oui, c'est pas du déni, hein. C'est amortir la réalité de la perte et tu vas prendre sa pleine intensité plus tard.
Alors, je ne me reconnais absolument pas en fait dans tout ce que vous venez de dire, je suis absolument confuse, mais c'est vous l'expert. C'est vrai que le fait de me confronter à la réalité matérielle du corps et de sa disparition fait que moi, j'ai absolument pas eu de grief attack. Après, du tout.
Mais vous n'avez pas peur de la mort?
Non, pas du
vous
tout.
Vous n'avez jamais eu peur de la mort?
Non, même enfant, pas du tout. Donc c'était très, très simple et je raconte beaucoup à quel point la littérature m'a aidé.
Le polar.
Dans le podcast. Alors pas que le polar, mais beaucoup le polar, parce que dans le polar, des fois on est face à des choses comme ça qui sont extrêmement violentes, et puis c'est bien décrit, et puis on a partout ça dégouline. Et si on lit pas mal de polar, alors au moment d'être en présence d'un corps qui commence à changer, qui commence à se modifier, bah, dans ce cas-là on est prêt. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas forcément quand on lit des polars qu'on est en train de se préparer à quelque chose qu'on vivra tous. Et c'est quand même bien utile les histoires qu'on se raconte pour faire face.
Christophe Fauré, deuxième phase du processus de deuil.
Et ben,
deuxième phase de ce processus de deuil, la fuite et la recherche. Or, ce sont deux mouvements simultanés et complémentaires.
Ouais.
Et il s'agit de mécanismes inconscients. Expliquez-nous.
Le premier de fuite, c'est pas une fuite consciente. On ne décide pas de fuir, mais on espère qu'on peut continuer sa vie dans la lancée de la relation, même si la personne n'est pas là. Comme quand un ventilateur qui tourne et qui est alimenté par l'électricité, si on arrête l'électricité, il continue à tourner. On se dit, mais je veux peut-être continuer dans la lancée de cette relation. Ça peut durer encore pendant de longs mois. Et la recherche, c'est un besoin souvent viscéral de retrouver la personne, de parler d'elle, de regarder les photos, parfois c'est trop difficile, mais de pouvoir être en lien constant. Et c'est parfois des gens qui mettent sur leur fond de téléphone ou d'écran la photo de la personne. C'est avoir besoin de porter ses vêtements, de dormir dans les draps, de toucher le doudou du petit, de sentir le doudou du petit, d'avoir toujours dans son sac son petit pyjama même. Et vraiment, les proches ne comprennent pas, trouvent que c'est morbide, que c'est vraiment complètement atroce de faire ça, alors que c'est un besoin naturel qui va progressivement s'estomper au fil du temps, mais qui est vraiment une recherche dans le monde de la personne qui n'est plus dans le monde. Comme si notre esprit avait besoin, avant d'intégrer la perte définitive, de trouver un relais dans le monde par les objets de la personne et sa présence.
Je trouve ça super intéressant, ça fait la deuxième fois que vous prononcez le mot morbide, et vous expliquez à quel point on est facilement jugé par les autres qui ne sont pas en train de vivre un deuil, parce que si on s'y intéresse, si on s'attache comme ça à des objets, alors tout de suite, ça va être la fascination pour la mort. Et c'est assez terrible ce qu'on arrive à se faire mutuellement avec le fait de stigmatiser un processus qui est complètement naturel. Et bien sûr qu'on a le droit de s'y intéresser, bien sûr qu'on a le droit d'en parler, mais c'est là où la mort rejoint un peu la sexualité, c'est qu'on est quand même sur des tabous qu'on a l'impression d'avoir traversé parce qu'on voit la mort 150 fois par jour à la télé, et en même temps, le jour où ça nous arrive, eh ben, on voudrait quand même se tenir à distance de ça, c'est quand même très bizarre, très paradoxal.
Ouais, il faudrait même parler de la pornographie de la mort, parfois.
Oui, tout à fait.
C'est fou. Ouais.
Alors, Christophe Fauré, troisième phase, à grand trait, évidemment, de ce processus de deuil, c'est la déstructuration. C'est quoi? Il s'agit d'une lente prise de conscience.
C'est, en fait, c'est le moment, ça survient à distance du décès, c'est pour ça que c'est du décès. C'est important de comprendre que parfois on est complètement dérouté pendant 6, 8, 10 mois. On arrive et dit tiens, j'arrive à tenir, mais naturellement, c'est naturel. Hein. Il y a quelque chose qui, des protections initiales qui ont été mises pour amortir la violence du décès, même si on était pleinement conscient, vont commencer à diminuer. Deuxièmement, il y a moins de proches autour qui sont là pour soutenir. Et puis troisièmement, il y a plus de nouvelles informations qui viennent. On ne voit plus la personne, c'est longtemps qu'on l'a plus touchée. Donc on commence à perdre des mémoires sensorielles de la personne. Et là, on bascule dans quelque chose qui n'est pas une dépression, qui appelle le vécu dépressif et qui va durer vraiment longtemps, plusieurs mois, plusieurs années, mais pas toujours dans le fond, c'est je veux mieux, je veux moins bien, je veux mieux, je veux moins bien, mais quelque chose où on a un vécu de grande solitude, mais dans le cœur, alors que les gens nous demandent comment tu vas et on sent obligé de dire ça va, et à l'intérieur, au cœur du cœur de soi-même, on sent vraiment le manque de cette personne-là, et c'est plus dur après.
Et dans cette phase, on retrouve notamment la peur, la colère, la culpabilité.
Qui est là tout le temps, enfin, là, j'en parle dans le livre à cet endroit-là, mais ça arrive tout le temps, mais il n'y a pas forcément toujours la culpabilité, il n'y a pas forcément toujours la colère, tout dépend de la relation qu'on a avec la personne. C'est la relation émotionnelle qu'on a avec la personne qui va déterminer la tonalité émotionnelle du deuil qu'on va vivre après sa perte.
Tiens, Maria Mazorette, dans le processus de deuil, on pense parfois à des choses bizarres. Vous vous demandez par exemple s'il faut laver les vêtements de Sorel que l'hôpital vous remet dans un sac plastique, et que faire de la pièce de 2 euros retrouvée dans l'une de ses poches.
Oui, il y a plein de moments hyper drôles dans la mort, et je pense que c'est aussi important d'en parler. Je raconte aussi un moment que j'essaie de lui couper les ongles parce qu'ils ont continué à pousser, c'est ce qui se passe après la mort, et que j'arrive pas à déplier les doigts, puis je suis terriblement contrariée parce que je me dis, mais oh, ce type-là, qui déjà a été compliqué quand on était en couple, là il est mort, il est encore compliqué, et je trouve ça génial d'avoir pu autant me marrer avec le cadavre. C'est assez réconfortant en fait.
Allez, il est temps de retrouver notre camarade de Christophe André et ses choses.
France Alter,
écoutez, médecin, psychiatre,
grand bien vous fasse,
psychothérapeute, qu'est-ce qu'il faut foutre, psychothérapeute.
Christophe André en direct de chez lui.
À l'égard de toute chose, il est possible de se procurer
nous les humains habitons une cité sans murailles. Ces mots sont du philosophe Épicure qui, contrairement à l'idée reçue, n'enseignait pas tant l'art de se faire plaisir que celui de bien vivre face à la douleur et à la mort. Vivre, c'est perdre, écrivait un autre philosophe dont j'ai oublié le nom. Et vivre longtemps, c'est être sûr de vivre de nombreux deuils, de voir partir beaucoup de proches, de connaissances, de célébrités. Pour ma part, j'ai compris que j'avais pris de l'âge le jour où je me suis aperçu que, quand j'apprenais la mort d'une personnalité, je calculais aussitôt son âge pour voir quel était l'écart avec moi. Beaucoup de deuils, donc, proches ou lointains, et donc chagrin, tristesse. Alors, pour que ce ne soit pas trop lourd à porter, nous avons deux options. La première est de ne pas y penser, de s'efforcer d'oublier. Mais en procédant ainsi, nous nous amputons d'une part de nous-mêmes, nous effaçons avec la tristesse le souvenir des bonheurs partagés avec les disparus. La seconde option est de continuer à rester en lien. La personne est morte, mais de notre mieux, nous gardons le lien vivant.
Même s'il me faut lâcher demain,
ceci, je me demande où tu es. Le cimetière, la terre, le cercueil, cela ne me suffit pas comme réponse. Et moi non plus, ça ne m'a jamais suffi. Alors, il nous reste les histoires qu'on se raconte, les illusions réconfortantes. Quand mon meilleur ami est mort, j'ai passé longtemps à me dire qu'il était toujours là, à côté de moi, des années à lui dédier à peu près tous les instants de ma vie. À lui parler en cachette, à voix basse, ça, c'est pour toi que je le vis. Ça, c'est avec toi que je le partage. Un vrai fou. Heureusement, personne ne s'en apercevait. Mais les plus belles des illusions qui réconfortent, ce sont peut-être les pareidolies. Ces phénomènes qui poussent notre cerveau à trouver un sens à ce qu'il a sous les yeux. C'est à cause des pareidolies que nous voyons des formes dans les nuages, par exemple, ou dans les motifs d'un tissu, ou d'un parquet. Avant sa mort, il y a exactement 10 ans, David Servan-Schreiber, le psychiatre visionnaire qui popularisa en France les oméga-3 et l'alimentation anti-cancer, demandait à ses enfants de penser à lui lorsque le vent d'été caresserait leur visage et leur disait « C'est moi qui serai avec vous à cet instant, en train de vous embrasser ». Sentir les disparus à nos côtés et bienveillants, se dire qu'ils continuent de nous aider et de nous aimer, c'est réconfortant. On sait qu'on se raconte sans doute des histoires, pas grave, si ça nous fait du bien et si ça reste notre choix et notre secret. Voici Bobin encore à ce propos. Hier, j'ai vu ta tombe. Pas celle où on t'a mise, celle-là j'ai vue aussi, mais celle dont tu sors sans arrêt en souriant. Hier, tu étais momentanément installé dans un bouquet de myosotis. Un peu plus tard, je t'ai deviné dans les fantaisies de la pluie sur l'autoroute.
Ah, nous avons perdu Christophe André. En tout cas, merci beaucoup Christophe André pour cette belle chronique. Vous pouvez réécouter. Ah, vous êtes là, mon cher Christophe.
On a dit à moi, décédé. Oui, j'aime ça, les illusions qui nous consolent. Et puis, qui peut nous prouver finalement que ce ne sont que des illusions? Je suis navré.
Non, vous inquiétez pas, mon cher Christophe. Ne vous inquiétez pas, mon cher Christophe. Vous pouvez réécouter les précédentes chroniques de Christophe sur l'appli France Inter. Et dans un instant, on se demande si le deuil a une fin. En attendant, on écoute Harold Parks.
Defeated rage, then he
Aimer une autre, à la fois dedans et dehors, il n'y a absolument aucune contradiction.
Un auditeur m'envoie ce message quand mon père est décédé il y a presque 20 ans. Ce qui m'a entre autres choses manqué, c'était sa voix. Alors avant de couper sa ligne téléphonique, j'appelais tous les jours pour entendre le son de sa voix sur son répondeur. Il m'a fallu 3 mois avant de me résigner à faire couper sa ligne. C'est un témoignage.
C'est la phase de recherche dont je parlais tout à l'heure. C'est le besoin de garder quelque chose de la personne pendant quelque temps.
Bonjour Alexandra Lévesque. Vous êtes journaliste, voyageuse, et vous avez publié en 2019 « Les autres fleurs font ce qu'elles peuvent », l'histoire de Violette, une petite fille de 10 ans dont le père tombe gravement malade et qui meurt d'une rupture d'anévrisme. Comment cette petite fille, qui est peut-être vous, je ne sais pas, vit le deuil de ce père parti trop tôt ?
C'est totalement moi, oui, cette petite Violette. Bah, elle ne vit pas ce deuil, en fait, parce que Violette, elle a fait partie de cette génération d'enfants qu'on n'emmenait pas aux obsèques de leurs parents. Et je vais parler à la première personne parce que ça va être plus simple. Et donc, je ne suis pas allée à l'enterrement de mon père. J'ai appris sa mort quelques heures après son enterrement. J'avais 10 ans. Et j'ai mis quasiment 30 ans à réussir à me réapproprier cette histoire parce qu'à l'époque, j'entendais maman et ses amis écouter un enregistrement. Il faut que c'était l'enregistrement des obsèques. Il y avait eu beaucoup de chansons, de Jacques Brel, de tout un tas de gens pendant les obsèques, et ça avait été enregistré. Et pendant 30 ans, c'est pas passé un jour sans que je ne pense à cette cassette. Sauf que j'étais dans l'incapacité physique d'appeler la personne qui avait cette cassette en main, je savais très bien qu'il avait. Et j'ai mis 30 ans à passer un coup de fil à ce monsieur qui m'a dit, bah, dis donc, je t'en avais du temps. J'ai récupéré la cassette, il m'a fallu encore, bon, bien des péripéties pour l'écouter vraiment et rester coincé dans une machine, imaginez pendant un an, et puis j'ai fini par l'écouter. Et en fait, par cet acte qui est très matériel, qui est un acte très simple, j'ai dit au revoir. J'ai dit au revoir à mon père, à qui je n'avais pas eu la possibilité de dire au revoir, tout simplement.
On peut dire que cette cassette audio, c'est un objet de résilience.
Ah oui, totalement. Ah oui, je pense qu'on est en plein dedans. Oui. Et comme tout acte de résilience, il a mis un temps assez long à maturer. Mais oui, on est totalement, je pense, il faudrait appeler M. Gironi pour savoir ça, mais je pense qu'on est totalement dans un objet de résilience.
Christophe, et là le message est clair, ne mettons pas les petits-enfants, même les tout-petits, loin des obsèques, de tout processus de deuil. Parce que le deuil, c'est pas que les obsèques, hein, c'est pendant des années et des années. Les petits ont désespérément besoin qu'on leur raconte qui est le papa, qui est la maman. C'est vraiment... Et surtout, ils peuvent être présents aux obsèques, choisir les fleurs, faire un dessin qu'on va mettre dans le cercueil. Mais quelque chose de joyeux, paradoxalement, qui là-dedans. Et surtout, les impliquer tout au long, pendant les mois et les années de ce chemin.
Alexandra Lévesque.
Oui, je suis tout à fait d'accord, mais j'en ai voulu. Moi, j'en ai voulu à ma famille proche et puis aux amis qui avaient tous un peu donné leur avis en disant il faut pas qu'Alexandra vienne. Ils ont évidemment pas pensé à mal, c'était pour me protéger, sauf que c'est la pire bêtise qu'ils aient jamais faite. Et moi, il m'a fallu quasiment 40 ans pour la réparer, cette bêtise. Donc je suis très prolétique, moi, à ce niveau aujourd'hui. Et d'un côté, que j'ai des proches qui perdent quelqu'un qui a des enfants dans les parages, qui les appellent en leur disant « J'espère que la petite truc et le petit machin, emmenez-le, vous savez, c'est un grand-père, une tante, un papa, une maman, peu importe, emmenez-le, au pire, il s'ennuiera, il sera là. » Il faut absolument être là. C'est une manière de dire au revoir. Moi, j'ai dit au revoir à personne.
Très important votre témoignage, Alexandra Lévesque. On peut lire votre roman autobiographique « Les autres fleurs font ce qu'elles peuvent ». Merci d'avoir témoigné ce matin. Marie-Laure Sunshine, nous terminons avec vous, avec une question pleine de sagesse et de pertinence.
De sagesse, je ne sais pas. En tout cas, on parlait à l'instant des enfants. Je voulais juste avoir votre commentaire et vous le dites bien, hein, concernant les hommes, la différence entre hommes et femmes dans le deuil, d'avoir la perception des autres. Aux obsèques, on se tourne vers la sœur, on se tourne vers la mère, beaucoup moins vers le père. Et vous l'écrivez, les hommes sont plus solitaires, plus intérieurs dans leur souffrance. Il faut évidemment l'accepter, en tenir compte.
Exactement, il faut. Parfois, il y a un véritable terrorisme de la parole où les femmes, c'est un peu général, je veux dire, mais les femmes pensent que, à juste titre, que mettre des mots, c'est la solution pour vivre son deuil. Alors que non, les hommes, parfois, ça leur fait violence de devoir mettre des mots. Les adolescents, parfois, disent « Mais mes enfants ne parlent pas de leur petit frère décédé et ça leur fait violence. » Il y a mille autres modalités de cheminer qu'au dehors des mots. Donc, pas de terrorisme de la parole. On n'est pas en train de créer une bombe à retardement si on ne parle pas.
Un mot de conclusion, Maria Mazoret.
Oui, on a beaucoup parlé à l'instant de dire au revoir. Pour pouvoir dire au revoir, il faut avoir de la place et il faut pouvoir le faire de manière intime et personnelle. Tant qu'on aura les codes des personnes qui viennent se mettre au milieu, qui viennent nous dire quoi ressentir, à quel moment et qu'est-ce qu'on met quoi dans quelle boîte, à quelle heure, ça va être un peu compliqué. C'est important pour nous, en tant que citoyens et citoyennes, de récupérer notre liberté dans le rapport qu'on a à nos morts.
Merci beaucoup Maya Mazoret. Notre beau podcast Traverse est disponible sur l'appli France Inter et sur toutes les applications
de podcast. Et c'est Fabrice Laigle qui l'a réalisé.
Et c'est l'excellent Fabrice Laigle qui réalise notamment le 18-20 de Fabienne Sintès qui a réalisé joliment ce podcast. Merci beaucoup Christophe Forêt. On peut lire avec beaucoup de profit, c'est une référence, Vivre le deuil au jour le jour. C'est publié chez Albin Michel. Merci beaucoup Christophe André et Marie-Laure Sunshine. Demain, avoir 15 ans en 2021, comment vivre son